m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme ! Au secours !
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Oui, vous êtes sur Radio Courtoisie et ce soir, nous allons parler de bande dessinée. Ce ne sera pas un débat, mais deux personnes vont se succéder. L'une, François Rivière, que je salue. Bonjour François Rivière.
Bonjour.
Qui est un spécialiste de la bande dessinée, qui est plutôt d'ailleurs un spécialiste de la littérature anglo-saxonne, mais qui a beaucoup écrit de scénarios de bande dessinée et de grands scénarios. Et la deuxième personne, Bérénice Levet, philosophe, qui m'a appelé l'autre jour en me disant qu'elle voulait dire du mal de la bande dessinée et qu'elle pensait que le mieux, ce serait de venir à mon micro, étant donné que je suis critique de bande dessinée. On verra bien ce qui ressortira de cette seconde discussion. François Rivière, vous avez écrit, il y a l'année dernière, si je ne m'abuse, un petit livre admirable, Confession d'un amateur de bande dessinée belge, où vous racontez comment est-ce que vous êtes venu à la bande dessinée par la grâce de votre mère qui, alors que vous gisiez sur votre lit de douleur, vous a offert un album.
Ma grand-mère.
Pardon,
ma grand-mère qui était une grande lectrice et qui n'a jamais su exactement toute sa vie ce qu'était la bande dessinée, mais qui très gentiment m'a offert un album que j'ai choisi moi-même chez le libraire, qui était, alors c'est une chance inouïe parce que je suis tombé tout de suite sur un chef-d'œuvre, puisque c'était le premier épisode du Mystère de la Grande Pyramide d'Edgar P. Jacobs, et je suis tombé dedans à tout point de vue. Je ne savais pas ce que c'était que la bande dessinée. Enfin, si, j'avais vu des albums d'Hergé, j'imaginais pas à quel point on pouvait être pris par un univers où se mélangeait. Alors bon, à ce moment-là, j'ai pas fait une analyse de la chose. J'avais 9 ans. À quel point la littérature, le roman et le graphisme s'associent dans le meilleur des cas pour créer quelque chose de très original, de très prenant. Et alors ça, c'est venu un peu après, dans ma découverte de la littérature, en fait, des livres, à quel point c'était finalement un médium qui permettait de ne pas en rester sur des récits illustrés considérés comme étant de la littérature pour enfants, mais d'aller vers la littérature tout court. C'est-à-dire que c'était un espèce de passage intéressant pour un esprit qui peut-être était un peu curieux au départ et qui n'entendait évidemment pas en rester là, un passage vers quelque chose de passionnant, de fascinant. Mais d'emblée, la bande dessinée que j'ai découverte, alors notamment grâce au journal Tintin auquel j'étais abonné, aux albums de Jacobs, à toute la production, enfin une grande partie de la production belge, mais du côté de ce journal Tintin qui pour moi est devenu une espèce de bible, enfin, je me suis initié vraiment à une forme de récit qui m'a emporté, enfin littéralement, je sais pas comment le dire autrement, ça a été vraiment une initiation et qui m'a amené à découvrir les auteurs eux-mêmes, c'est-à-dire étant fétichiste des œuvres, je suis devenu un groupie de ces auteurs que j'ai pu rencontrer, notamment Jacobs, Hergé, j'ai fréquenté pendant quelques années, et tout ça parce que j'étais curieux de connaître ces gens qui, derrière, dans leur petit atelier, fabriquaient des histoires qui me faisaient rêver, quoi, avec un statut quand même complètement différent de celui des écrivains. Moi, ma grand-mère, pas du tout une fan de mon essai, ce qui est tout à fait normal, me lisait Dickens quand j'étais petit, le soir, avant que je m'endorme. J'ai eu le droit à tout David Copperfield, comme ça, soir après soir, ma mère aussi, mais beaucoup lu d'histoire. Enfin, je baignais quand même dans un... Et puis ma grand-mère avait une bibliothèque absolument incroyable. Mais la bande dessinée, c'était quelque chose qui était à part. Mais à quoi je me suis initié jusqu'après à devenir auteur, mais enfin, ce que j'ai raconté dans le petit livre, dont le titre fait référence à une œuvre de Thomas de Quincey, Confession d'un mangeur d'opium, parce qu'effectivement, c'était un peu une drogue douce, hein, la bande dessinée, finalement. On n'allait pas très très loin, c'est-à-dire qu'on restait dans un univers de bonne éducation, enfin...
Et avec quand même, et vous le soulignez, Jacob, c'est l'Empire anglais, c'est l'Égypte. Après ça, vous plongez dans Alix, et donc le monde romain. Et chaque, c'était la grande époque du journal Tintin où la bande dessinée faisait voyager à travers les époques, à travers les milieux sociaux. Il y avait quand même une ouverture sur le monde qui était assez remarquable.
Oui, il y avait une ouverture sur le monde, sur une forme de littérature. Bon, ça aussi, je l'ai découvert, j'ai compris après. Jacob, par exemple, le créateur de Blake et Mortimer, qui devenue une œuvre, enfin, qui, même après, depuis la mort de Jacob, perdure incroyablement, avait créé une forme de bande dessinée qui était beaucoup plus adulte que celle d'Hergé, qui lui, vraiment, dessinait Tintin, qui, magnifique, hein, mais qui était dessiné aux gamins, quand même, hein, même si les adultes s'en ont pas, et puis même si les gamins devenant grands, on faisait une espèce de littérature pour tous. Mais Jacobs empruntait ses personnages à une forme de roman d'action, une forme de roman d'aventure de la fin du 19e anglais. C'est-à-dire que ses modèles, c'était Conan Doyle, c'était Wells, c'était Reader Haggard, l'auteur des Mines du Roi Salomon. Ben, c'était vraiment... ça partait quand même d'un fond qui n'était pas rien, quoi.
Et qui, d'ailleurs, à l'époque, n'était pas du tout considéré comme de la littérature populaire pour Minus Abins. C'était des auteurs reconnus, y compris dans les journaux littéraires bienvenus.
Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Sans vergogne, presque, Jacobs, qui n'avait pas une culture immense, mais qui avait lu quand même beaucoup de romans d'aventure, comme les gens de sa génération, qui avait assisté un peu aussi, pas au début vraiment, mais à l'éclosion d'un cinéma... absolument magnifique. Hein. Il avait vu Le Monde Perdu quand il avait 15 ans. Et il a vu les films d'Hitchcock, enfin, le film de Fritz Lang, tout ça, tout le cinéma expressionniste allemand. Bon, c'est quand même pas. Tout ça, c'est un fond de culture quand même assez impressionnant. Hergé, lui, c'était plutôt le cinéma comique, enfin, Chaplin, Harold Lloyd. Tout un tas de choses qui finalement étaient assez accessibles, enfin qui étaient même complètement accessibles à des gens de milieu populaire, parce que les auteurs de bande dessinée, ceux que j'ai connus, étaient tous des garçons qui venaient de milieux assez modestes, en fait.
Alors, quand vous dites que vous les avez connus, effectivement, donc vous grandissez, vous devenez journaliste, enfin vous êtes étudiant, et un jour vous poussez la porte, par exemple, d'Edgar Jacobs, donc chez lui, en Belgique. Et il vous offre un whisky, enfin, vous décrivez une scène où on sent que vous êtes envahi à la fois par l'émotion et par l'alcool, et avec une proximité, effectivement, qu'on n'imagine pas de quelqu'un, quand même, de célèbre et d'établi.
Ben, en fait, j'étais assez naïf, assez candide. Je me suis présenté comme un lecteur, enfin, un admirateur, et Jacobs m'a reçu, alors qu'au fond, il était très peu sollicité par ses lecteurs, et donc j'ai eu droit à une soirée interminable chez lui dans sa petite maison du Brabant, ce qui l'a d'ailleurs contraint à me ramener en voiture jusqu'à Bruxelles, à 30 km de là, à minuit passé.
Il n'y avait plus de train ni de tram.
Non, il n'y avait plus rien. Et c'était le début d'une relation amicale qui a duré quand même un certain nombre d'années. Mais je découvrais un personnage. Alors, les différents auteurs que j'ai connus, étaient tous effectivement des gens qui avaient un pédigré quand même assez curieux, enfin qui étaient beaucoup, alors ça c'est de manière plus générale, mais beaucoup d'auteurs de mon essai sont des peintres ratés, enfin sont des gens qui n'ont même pas fait d'études d'art ou de peinture, alors que Jacobs lui avait fait l'académie à Bruxelles, son rêve c'était d'être peintre d'histoire, bon, ce qui n'est pas vraiment devenu, mais d'une certaine manière comme par ailleurs il s'était senti une vocation de chanteur lyrique qui n'a pas abouti à grand-chose. Et les deux choses se sont quand même amalgamées pour donner ce qu'on connaît de lui, c'est-à-dire une dizaine d'albums de bande dessinée qui sont quand même des chefs-d'œuvre absolus dans cette catégorie. Ces gens, Hergé, qui était en fait un adolescent qui s'avait dessiné et qu'une revue catholique de Bruxelles a engagé comme petit grouillot, et qui est devenu l'auteur de Tintin, Jacques Martin, qui était passé par la Belgique, puis il était français, avant de commencer à faire de la bande dessinée, mais qui rêvait d'être un nouveau Hergé, mais qui est en fait devenu il est devenu lui-même, c'est-à-dire l'auteur d'une série de péplums absolument invraisemblables, avec une érudition, un goût pour l'histoire, etc. Enfin bon, fantastique. J'ai connu Raymond Machereau, que j'aimais énormément, qui est un peu oublié. Ou même
Raymond Machereau, donc c'est Sibylline qui paraissait dans Spirou,
oui, c'est
entre autres.
Et qui a fait d'autres histoires, qui avait créé un personnage qui est resté pour moi des plus grands personnages de la bande dessinée belge, qui est le colonel Clifton, qui est un détective, un personnage qui associe le côté colonel anglais à la retraite, chef scout et détective. Personnage de fiction absolument magnifique.
Avec une paire de moustaches blondes absolument magnifiques. C'est une espèce de caricature aimable de Colonel Blake dans Blake et Mortimer.
Oui, c'est ça. Oui, il y a un côté caricatural complètement. Je crois qu'il était en fait le seul véritable anglophile de la bande, alors que Jacobs, au fond, n'était pas vraiment anglophile. Il était fasciné par l'Angleterre à travers des romans et les films, mais Raymond Machereau, que j'ai bien connu, avait vécu en Angleterre et montrait de manière complètement humoristique, hein, complètement décalé, la vraie Angleterre.
Machereau, c'est aussi Chlorophylle, d'ailleurs, parce que j'ai cité Sibylline, mais disons que son chef-d'œuvre, c'est quand même Chlorophylle,
oui.
À mon goût.
C'est magnifique, oui. Oui, il a inventé un petit...
Un héros avec une espèce de peuple animal, avec
oui,
une loutre particulièrement brutale, qui fait penser... C'est l'équivalent de Bill Ballantyne dans Les Aventures de Bob Moran.
Oui, oui, oui. Alors, il était hanté, comme tous ces... ses confrères par la Seconde Guerre mondiale et les personnages qui sont immédiatement reconnaissables. Enfin, dans cette petite, ce petit peuple de Coquefredouille, de l'île de Coquefredouille, où tous les gens sont habillés en costume de la Belle Époque. Parce que moi, j'étais ébloui par cette série où, à la fois, il y avait beaucoup d'humour, évidemment, mais aussi une critique sociale qui était assez affirmée quand même. Un album, c'est pas Sibylline, je crois que c'est un petit personnage de Machereau qui n'a vécu qu'un épisode, qui est un marin qui s'appelle le Père Laoul et qui engage un mousse et le pauvre mousse fait une bêtise, il donne une pichenette à un gendarme dans la rue et il fait 8 jours de prison et en sortant il se met à pleurer sur l'épaule du Père Laoul, qui est un petit bonhomme à barbichette avec une casquette. Qui a son franc-parler, qui lui dit, mais arrête de pleurer, de toute façon, en prison, il y a des banquiers, il y a des avocats. Et c'était quand même de la littérature pour enfants, c'était tout ça dans un journal dessiné aux jeunes garçons qui, en général, plutôt venaient de bonnes familles. Hein. C'était l'époque aussi où la bande dessinée était quand même était diversifiée. Il y avait... Moi, j'ai été abonné à Cœur Vaillant, qui était un organe catholique, qui essayait de faire concurrence à Tintin, alors que, de l'autre côté, il y avait Vaillant, qui était...
Communiste,
mais j'ai jamais lu Vaillant, on ne m'aurait pas permis. Et puis après, sont arrivées des publications un peu plus en accord avec l'air du temps, enfin...
Voilà, c'est la manière dont Pilote va débarquer, dont Pilote va évoluer lui-même.
Oui,
dans ce que vous disiez, vous découvrez les gens, vous découvrez les auteurs, vous prenez de passion pour eux, et une partie de votre œuvre, enfin de vos travaux, nous en parlions tout à l'heure, je crois que le mot œuvre vous paraissait disproportionné, à mon avis non, revient à explorer justement et à permettre à d'autres lecteurs d'accéder. Vous avez écrit une biographie de Chesterton, vous avez écrit une biographie de Patricia Highsmith, vous avez écrit sur Agatha Christie, vous avez écrit sur Jacobs. Il y a une volonté à chaque fois de ne pas se contenter de l'histoire, mais de voir qui, en fait, a écrit cette histoire, pourquoi, d'une certaine manière, en approchant le mystère un peu de la création à travers le créateur.
Oui, c'est un peu obsessionnel. Hein. Je ne sais pas exactement comment analyser la chose. Sinon, effectivement, j'ai toujours aimé essayer de voir à l'intérieur un peu de la fabrication. Enfin... Alors, les auteurs morts, qui me fascinent, je sais pas, Kipling, par exemple, j'ai écrit un roman autour de la vie de Kipling, en fait, son étrange mariage. J'ai fait récemment une biographie de Conan Doyle, mais c'est vrai que la pauvre Agatha Christie, que j'ai pas eu la chance de connaître, a eu droit aussi à une approche. Je crois que c'est une espèce de fascination. L'envie de savoir, enfin essayer de m'imaginer comment est-ce qu'on peut être alors Chesterton qui est un maître absolu, enfin qui est personnage et donc là j'ai eu le privilège d'être le seul jusqu'à présent biographe française qui m'étonne. Ça m'attriste même beaucoup parce que c'est un immense écrivain. Alors bien sûr, on l'a un peu malmené idéologiquement, mais enfin, il reste intact et c'est quelqu'un qui a marqué la littérature internationale. J'ai Borges, on fait des gorges chaudes. J'ai un peu connu Roger Caillois qui avait une admiration sans borne pour le Chesterton. Bon, là, effectivement, à part avoir eu la chance de connaître sa secrétaire qui était encore vivante quand je me suis intéressé à lui, là, c'est une approche. Mon côté obsessionnel s'est exercé à travers des témoignages, enfin des lectures, fait d'aller voir un peu où il avait vécu. Enfin, c'est assez, assez naïf. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui analyse les choses tellement de manière sophistiquée. En fait, j'essaie d'adhérer au personnage à travers l'œuvre. Je n'ai jamais compris pourquoi. Pendant très longtemps, l'université se refusait complètement à la biographie. Bon, ça a un peu changé maintenant, ça on n'est plus là, mais il y a eu une époque encore récente où, peut-être liée à,
oui, oui,
disparition des personnages dans le nouveau roman qui n'a abouti à rien. Moi, ça m'amuse parce que finalement, moi qui suis un petit écrivain, je me suis rendu compte que des grands mouvements littéraires, enfin, ou supposés littéraires du XXe siècle n'ont pas forcément abouti à grand-chose et n'ont pas détrôné peut-être les grands bourgeois qui ont été les vrais romanciers du XXe siècle, finalement. Alors maintenant, on n'en est plus là, maintenant on en est plutôt à une débandade terrible, mais du coup, c'est aussi peut-être dans les marges que j'ai trouvé, moi, une provende.
Alors, quand vous dites que ce sont dans les marges, une fois de plus, c'est devenu marginal, parce que Kipling, Rider Haggard, Conan Doyle, ce sont des tirages exceptionnels, ce sont des gens qui sont complètement installés dans le paysage intellectuel, littéraire, politique même de l'Angleterre, et donc à l'époque d'ailleurs du royaume, pas juste de l'Angleterre, du royaume britannique et même de l'Empire britannique. Et vous avez aussi une autre manière, si j'ose dire, d'être proche d'eux, c'est de les intégrer à vos propres fictions, comme par exemple le livre de Kipling, donc évidemment qui fait penser au livre de la jungle. Mais ce livre de Kipling, c'est un roman que vous écrivez qui paraît au Masque, donc célèbre, célèbre série policière, éditeur de romans policiers. Et je me permets de lire la quatrième de couverture. L'un des rêves de Charles Perlet et Monette Odo, les agents littéraires de Sir Henry Rider Haggard, l'auteur des Mines du roi Salomon, et de rencontrer le meilleur ami de celui-ci, un des écrivains du plus célèbre d'Angleterre, Rudyard Kipling. Alors que sur le continent, la guerre fait rage et que les zeppelins allemands s'aventurent jusqu'au-dessus de la Grande-Bretagne, Kipling est un exemple pour ses compatriotes. Rider Haggard a toujours été très protecteur vis-à-vis de son ami, mais aujourd'hui, il paraît terriblement inquiet. Un grand danger menace manifestement Kipling, mais pour l'instant, c'est dans la maison de Monette Odo et de Charles Perlet que l'on vient de trouver un cadavre. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent chez vous. Il y a vos admirations, il y a vos lectures, et il y a la manière dont vous les distillez, dont vous les quintessenciez, dont vous les prolongez, en fait.
Oui, alors j'avais créé une série qui n'a pas duré très longtemps, qui a eu dans 4 romans, une série policière avec 2 héros qui était un agent littéraire anglais et son assistante française. Et c'était vraiment un roman à clé parce que les personnages, mes amis pouvaient les reconnaître facilement. Et tout ça dans le petit monde, puisque mes héros étaient des agents littéraires, dans le petit monde de la littérature anglaise des années autour de la guerre de 14, enfin un peu début du XXe siècle. Et je me suis beaucoup amusé justement à intégrer des personnages. Je peux même vendre la peau de l'ours maintenant pour le premier de la série, le livre de Kipling, en fait, où j'ai fait carrément de Rider Haggard un assassin. Et de Kipling, un personnage qui m'a toujours fasciné complètement. Enfin, j'ai dû visiter, je ne sais pas combien de fois, la maison de Kipling à Batemans, dans le Sussex, ce qui est un endroit absolument extraordinaire, qui est resté complètement comme il y a vécu et où il est mort. Enfin bon. Mais moi, je suis fétichiste, donc il fallait que j'aille un peu au bout de tout ça, en m'intégrant même complètement à travers des personnages. Alors, c'est à la fois une facilité, parce qu'on dispose de tout un matériau de base, Je pense pas que mon point fort, ce soit vraiment les intrigues. Je pense plutôt que c'est une manière de m'immiscer comme une petite souris à l'intérieur de l'œuvre, et puis d'en tirer quelque chose, d'en tirer éventuellement une leçon, même éventuellement pour le lecteur, sans prendre totalement parti. C'est-à-dire que, pour moi, alors ça c'est un peu prétentieux, mais pour moi ce sont des êtres humains jusqu'au bout, quoi. Ces gens dont je peux faire des personnages, c'est une manière de les neutraliser un peu tellement ils me fascinent, quoi.
Voilà, et effectivement, vous les faites un peu descendre de leur piédestal.
Oui,
oui. En les renvoyant à un rôle de personnage de fiction, voilà, vous êtes un peu moins en adoration devant eux. Mais malgré tout, on va terminer sur Kipling, ou peut-être qu'on y reviendra. Vous avez continué à l'apprécier. Donc là, ce roman paraît au XXe siècle. Vous aviez déjà parlé de Kipling. Et là, vous avez préfacé l'un des derniers recueils parus en français de Kipling, qui s'appelait « Le parfum des voyages », où là, vous aviez décidé de vous intéresser à une partie méconnue aujourd'hui de Kipling. Voilà, on connaît toujours le livre de la jungle. On connaît plus du tout Puck, lutin de la colline. Mais on connaît encore moins ses récits de voyage. Et c'est dans Le Parfum des Voyages, une édition, donc vous avez un choix de texte établi et préfacé par vos soins, donc de Rudyard Kipling, où les gens se sont étonnés de trouver un Kipling beaucoup moins impérialiste et colonialiste que leurs souvenirs ne l'avaient peint.
Oui, alors ce livre, dont je suis très fier en fait, en tant qu'anthologiste, est né du fait que je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais réédité en français, alors que ça avait été traduit, les reportages, parce que ce sont les reportages de Kipling, en fait, depuis un siècle. Et je me suis dit, c'est quand même le moment de le faire. En plus, j'ai trouvé une magnifique conférence qu'il avait faite sous le titre, justement, Le Parfum des Voyages en France, dans les années 20, sur cette notion de voyage. Et ce sont des textes qui sont des chroniques, puisqu'il a commencé sa carrière non seulement comme auteur de contes, mais
comme journaliste.
Presque davantage, oui, Les Contes des Collines, mais presque davantage comme journaliste, en fait, dans deux publications anglo-indiennes, puisqu'il vivait à Lahore avec ses parents, là, Le Pionnier, et puis une autre revue, et il s'est fait connaître, notamment d'un public auquel il tenait beaucoup, qui était le public américain, qui lisait ses chroniques, et même si on connaît surtout l'auteur de fiction, c'est-à-dire qu'on connaît surtout aujourd'hui finalement très peu de choses, parce que Le Livre de la Jungle, c'est une idée de son père, c'est à peine du Kipling, même si c'est magnifique, mais finalement le vrai Kipling n'est pas tellement là. On connaît les histoires comme ça pour qu'on lit aux enfants, qu'il avait écrit pour sa fille, pour moi le plus beau roman de Kipling c'est Kim, un roman que tout scout doit avoir lu.
Mais dont Borges disait qu'il y avait une pitié, c'était la manière dont il avait transformé Kim en agent secret de l'Empire, et qui pour lui c'était quelque chose de désastreux par rapport à l'économie générale du roman.
Oui, effectivement, au cours de son voyage avec le lama, Kim reçoit une éducation de scout, d'éclaireur, par deux Anglais, oui, effectivement. Non, mais c'est le côté aussi complètement délirant, même par moment, de Kipling. Mais c'est très beau, le personnage de Kim est absolument extraordinaire, et le récit est fascinant. Mais les reportages, pour en rester à ce recueil que j'ai eu plaisir à faire, Kipling s'épanche sur des tas de choses. Effectivement, c'est plus du tout le sale impérialiste. Non, c'est quelqu'un qui donne son avis sur beaucoup de choses, notamment sur le tourisme, puisqu'il évoque les méfaits du tourisme déjà dans les années 1860, ce qui est quand même assez drôle. Il évoque tout ce qu'il a connu. C'était un immense voyageur. Et pour moi, ça reste un très très grand écrivain qu'on a un peu catalogué de manière effrayante. Hein.
Alors, ces écrivains qu'on catalogue, pour des raisons idéologiques pour des raisons de snobisme littéraire, ce sont par exemple aussi toutes les grandes reines du crime anglais, on célèbre les romancières des romans sérieux, mais Patricia Highsmith, Agatha Christie, etc. Alors, Agatha Christie, c'est certainement une grande romancière, c'est pas forcément un grand écrivain, mais il y a parmi celles que vous avez saluées et auxquelles vous avez consacré un ouvrage, Ruth Randall, P.D. James, etc. Il y a de vrais écrivains qui ont choisi le roman policier comme genre, mais qui l'ont porté à un point de littérature qui n'a rien à envier à ces auteurs admirables du nouveau roman que vous citiez tout à l'heure.
Oui, alors évidemment, il y a des, là encore, ce sont des femmes très très différentes qui, au tout début de leur carrière d'écrivaine, misent sur le roman policier parce que effectivement, c'est un moyen de gagner sa vie, enfin de s'en sortir, de se libérer même un peu. Mais pour quelques-unes d'entre elles, il y a eu des motivations beaucoup plus importantes. Et je pense notamment à une que j'ai très bien connue, qui n'est pas la plus connue, mais qui est Ruth Rendell, qui est donc anglaise, qui pratiquait dans un genre qui était assez proche de ce que faisait Patricia Highsmith, qui elle est davantage connue parce qu'elle a, elle a eu un public en France assez important. Mais Ruth Rendell a découvert qu'elle était capable d'écrire, de faire de la littérature. Et, mais très modestement, elle, elle a commencé en faisant des romans policiers avec un détective, un policier anglais, et ça a pris parce que on sent, le public n'est pas idiot finalement, il ressent les choses. Dans le roman policier, il y a quand même, je sais pas, je dirais 80% de fabricants, hein, et puis les 20% qui restent, ce sont des vrais écrivains, égarés ou non dans le roman policier, pas forcément égarés parce que bon, Simenon n'était pas spécialement égaré dans le roman policier, puis d'autres, Raymond Chandler, qui était quand même un grand styliste, n'a œuvré que dans la littérature policière, et plus près de nous, il y a des tas de romanciers. Ce qui est merveilleux, d'ailleurs, c'est de voir, je saute un peu en arrière, les critiques, enfin, les notes critiques de Borges, qu'on peut trouver dans la Pléiade, où il passe allègrement de Wells à un auteur de polar publié dans la collection L'Empreinte en France dans les années 30, à je sais pas qui, enfin des gens, Stephen Zweig, enfin bon. Moi, ça me prouve quand même que je, bah, en ce qui me concerne, si je puis dire, que je ne me suis pas trompé complètement. Quoi.
Oui, que
ouais. C'est, si je puis me permettre, c'est quand même assez drôle de voir que tout. Il ne faut pas tout mélanger, mais il faut faire le tri. Quoi. Et effectivement, dans le domaine du roman policier, pour en rester encore à ces dames du crime, qui ont produit souvent de vrais chefs-d'œuvre, ou comme Agatha Christie, ont produit de manière absolument incroyable des œuvres qui ne sont pas littérairement très abouties, mais qui obéissent à un désir un peu de fabriquer quelque chose pour surprendre le lecteur, pour le coincer à chaque fois, etc. Enfin, ça devient un jeu, en fait, c'est quand même ça aussi, dans mon policier, c'est un jeu, moi, ça me fascine, donc, quand c'est vraiment réussi, enfin, voilà, et là, la littérature entre en jeu, si on veut, mais pas forcément, quoi.
Alors, dans votre œuvre de scénariste, vous avez vous-même sacrifié, si j'ose dire, au roman policier, mais avec plusieurs séries. Vous citiez Raymond Chandler, ben évidemment, ça fait penser au Privé d'Hollywood avec José-Louis Boquet et Philippe Berthet, un représentant de la ligne claire publié chez Dupuis. Blitz, qui est moins policier, qui est beaucoup plus littéraire, avec Flock, ou la série Albany, avec notamment Rendez-vous de Seven Hawks, qui est là une histoire. Et on sent que vous, dans vos premiers scénarios, puisque voilà, ça paraît en 1977, le Rendez-vous de Seven Hawks, c'est à la fois les films d'horreur des années 50, la littérature policière anglaise, le goût aussi de digérer, si j'ose dire, votre anglomanie en mettant en scène un personnage anglais dans un environnement anglais. Et on est à la fois à la limite du pastiche, de l'hommage et de l'œuvre originale, avec toutes ces influences que vous recyclez et que vous quintessenciez.
Oui, alors, dans le premier album que j'ai écrit pour Flock, là, se mêlait pas mal de choses. Hein. Effectivement, ma fascination pour le théâtre du Grand Guignol, le théâtre de l'épouvante, et pour le roman de détection classique, pour une certaine forme de littérature anglaise plutôt sophistiquée. Enfin, c'est vrai qu'il y a un mélange. Alors on peut effectivement parler de presque de pastiche, oui, mais c'est un peu du pastiche pris au sérieux d'une certaine manière. Ce qui fait que je voulais absolument montrer que j'avais mais là il y avait quelque chose d'un peu théorique, l'envie de mettre dans la bande dessinée. Avec la chance d'avoir un dessinateur qui lui-même, dans son travail, faisait référence à la bande dessinée belge que j'adorais, que lui aussi adorait, mais de mêler je sais pas, une forme de fiction mêlant le fantastique, le policier, etc., qui pour faire un peu avancer les choses. Bon, c'était très prétentieux d'une certaine manière parce que finalement, c'était pas, ça aurait pu ne pas du tout aboutir. On a eu la chance que ça a donné quelque chose qui a très bien marché, qui a décidé d'une série après où on s'est mis un peu plus à œuvrer plutôt dans la référence littéraire, enfin à tout ce monde très sophistiqué de l'Angleterre, enfin mais toujours quand même avec un clin d'œil, sans se prendre vraiment trop au sérieux, mais en mêlant les personnages réels, je sais pas, on trouve à côté d'une romancière de roman policier qu'on a inventé évidemment,
Olivia Sturges.
Olivia Sturges, on trouve qui est en duo avec un critique littéraire qui s'appelle Francis Albany, alors que, bon, qui est un peu aussi espèce de Lytton Strachey pour les gens qui connaissent, copain de Virginia Woolf. On est dans une espèce d'approche qui peut se lire au premier degré complètement sans problème, hein, et puis quelque chose d'un peu plus référentiel. Voilà, bon, on y mais trouve Noël Coward, enfin bon. Voilà.
C'est quelque chose de référentiel et en même temps où vous ne multipliez pas non plus les clins d'œil. Il y a Olivier Schwartz qui est un dessinateur néo-ligne claire remarquable qui avec, comment s'appelle-t-il, Yann, publie des albums où là, chaque case est saturée de clins d'œil, de références. Et donc là aussi, bien sûr, on peut lire la bande dessinée normalement, mais on est quasiment obligé de la lire une deuxième, une troisième fois pour vérifier à chaque case qu'on a bien compris tous les clins d'œil. Vous, c'est quelque chose de plus simple. Ça me fait d'ailleurs penser à votre travail de biographe où ce ne sont pas des biographies à l'américaine, 700 pages, où on épuise le sujet et où du berceau et même de l'arrière-grand-père jusqu'à l'arrière-petit-enfant, on a l'intégralité de la vie et des détails, y compris les plus sordides. Il s'agit plus d'évocation. Il s'agit de faire comprendre aux gens qu'il y a une atmosphère, qu'il y a un univers possible et d'ailleurs de lui donner 2-3 clés pour qu'il s'y intéresse lui-même.
Oui, effectivement. Si c'est vraiment ça, tant mieux, parce qu'effectivement, mon idée n'a jamais été d'en rajouter, enfin, de faire un étalage, même si, évidemment, à la base, il y a une sorte d'érudition, mais c'est plutôt de la curiosité qu'un empilage de choses pour faire référence, enfin, et pour effectivement en mettre plein la vue au lecteur. Il y a une connivence, il faut créer une connivence avec le lecteur. Et alors, bon, dans la bande dessinée, il y a le texte et le dessin. Et le dessin, quand même, est très important pour arriver à créer vraiment ce lien enfin, avec un lecteur. Mais la bande dessinée, justement, se prête très bien à cette chose qui permet de rester un peu naïf dans une lecture au premier degré. À condition évidemment qu'on n'encombre pas le récit de trop de choses et puis enfin une linéarité enfin qui fait que le lecteur des albums que j'ai pu faire avec Flock par exemple n'est pas le même que celui de certains albums de grandes séries qui ne visent pas le même public. Finalement on est quand même par moment considéré comme des auteurs pour un certain public, de toute façon on le voit au tirage, aux ventes, n'ayant jamais envisagé la bande dessinée comme un médium inférieur, je me suis dit que je n'allais pas, moi, essayer de rabaisser le niveau ou de rester à un niveau que je ne trouvais pas forcément très intéressant, parce que c'est quand même au départ un phénomène de presse. Pour juste prendre un exemple, qui me terrifie encore quand j'y pense, le pauvre Edgar Jacobs, qui a produit des chefs-d'œuvre, notamment un album comme La Marque Jaune, qui est un classique du genre, a été obligé par son éditeur à ne faire un récit, à ne pas dépasser 60 pages. Donc le pauvre Jacobs a été obligé de ratatiner la fin de son histoire, alors qu'on aurait pu lui octroyer peut-être 2 planches, mais parce qu'il y avait un formatage, parce que la bande dessinée, un peu comme les romans policiers, qui finissent par faire 250 pages, alors que, et c'est le cas de beaucoup de romans anglais, les grands romans policiers anglais des années 20 et des années 30, qui étaient en fait des livres assez épais, mais qui étaient des œuvres, enfin des lectures passionnantes, qu'on a formaté souvent. Alors ça, c'est la traduction aussi qui infirme un peu les livres, ça ne m'a jamais totalement plu, parce que je trouve que là, il y a un mépris du lecteur qui est absolument terrible, et qui finit par donner une image, d'ailleurs, de certains genres littéraires, une mauvaise image, en fait.
Oui, un côté standardisé à cause des conditions de production, mais de même la longueur des bobines de films, etc. Mais, et c'est vrai que la bande dessinée s'est totalement affranchie de ça. Ouais. On a maintenant des bandes dessinées très courtes, la collection Pâte de Mouche, et au contraire des bandes dessinées qui font allègrement 500 pages.
Les auteurs ont les mains libres maintenant dans tous les genres. Pendant très longtemps, la Série Noire publiait des romans complètement tronqués. Traduction, on amputait pratiquement le tiers du roman. Enfin, bon, c'était terrifiant.
Dans votre travail, et par exemple avec Flock, il y a des expérimentations intéressantes, notamment parce qu'elles ne disent pas leur nom. Plutôt que d'avouer qu'on est en train d'assister à un spectacle qui est une espèce de tour de force scénaristique et graphique, je pense à Blitz, où en fait on se rend compte, après avoir fini l'album, on le reprend évidemment pour le plaisir, qu'on est systématiquement de face. Et donc, on se rend compte que Blitz est en fait une pièce de théâtre et que les 95% de l'album, le dispositif scénique est en fait totalement caché. C'est-à-dire, si on ne se rend pas compte soi-même qu'on est en train de regarder des gens dans un espace clos qui varie très peu, avec uniquement des valeurs de plan différentes, on ne se rend pas compte qu'on a une bande dessinée qui nous raconte une pièce de théâtre, avec donc juste ce procédé cinématographique d'un zoom plus ou moins accentué. Ça, c'est pour le coup une espèce de tour de force qu'on ne peut réaliser qu'avec ce médium et qu'avec un dessinateur de talent. Comment est-ce que vous avez eu cette idée? Comment est-ce que vous l'avez scénarisé?
Ah, ce qui est très drôle, c'est que finalement, je ne pense pas qu'au début, quand on a commencé à fabriquer cet album, il n'était pas vraiment un album au départ, puisque c'était un feuilleton pour le journal Le Matin, qui voulait publier chaque semaine une planche. Je pense que l'idée d'en faire une pièce écrite par deux de nos personnages, enfin, les deux personnages qui sont devenus après les récurrents dans la série, je ne sais pas si c'était vraiment explicite. Mais c'est presque au fur et à mesure de l'histoire qui s'est déroulée dans un décor unique, un peu comme l'accord de Hitchcock, mais presque de manière plus trompeuse pour le lecteur, puisque justement on était dans un décor, on était dans une ambiance particulière. Je pense que le lecteur ne peut pas imaginer que ça pouvait être autre chose qu'une histoire comme d'habitude. Quoi.
Ah bah, on rentre dedans,
et à la fin, on tombe, on découvre, et... donc je ne sais plus très bien, mais sincèrement, mais peu importe. Et à la fin, on annonce que c'est une pièce écrite en collaboration par deux personnages qu'on voit au premier plan et qui se sont trouvés un pseudonyme commun. Enfin bon, moi j'aime bien ce genre de choses un peu sophistiquées, mais là, en l'occurrence, effectivement, ça crée une chute, quoi, tout simplement.
Et avec, une fois plus, une espèce de tour de force graphique. Ce qui m'intéressait, c'était de me demander si vous faisiez partie de ces scénaristes qui sont très précis dans les conseils graphiques qu'ils donnent. Covin, crobarder la planche pour qu'ensuite le dessinateur l'exécute, comme on exécute une partition, mais quand même une partition déjà bien écrite. On parlait tout à l'heure, avant l'émission, d'Achille Talon. Greg aussi était précis dans les angles qu'il recommandait, Goscinny, ou au contraire, certains scénaristes racontent l'histoire, découpent les dialogues et laissent le dessinateur totalement libre.
Oui, j'ai découvert que Jean-Michel Charlier, grand scénariste belge, était un peu en retard dans son scénario pour je ne sais plus quel dessinateur. C'est le dessinateur qui continue l'histoire tout seul. Enfin, alors ça, moi, ça m'a jamais vraiment plu, ce genre de choses, parce que il faut quand même être précis. Enfin, il faut être laisser libre. Je pense que le dessinateur, quand il a des idées, il les soumet au scénariste avant exécution. Enfin, on en parle, on en discute. Avec Flock, on a eu des longues discussions, même entre deux albums, puisqu'on n'a pas œuvré tellement, finalement, sur la longueur. Et c'est ça qui est passionnant. Il faut que le résultat colle quand même énormément à ce qu'on a envie de faire, et dans une optique particulière, en fait. Quand on crée des personnages, on a envie de les faire exister vraiment, de les imaginer un peu sous tous les angles. D'ailleurs, on a fait un album qui est une biographie de la romancière Olivia Sturges, sous la forme d'un documentaire, en fait.
Olivia Sturges, 1914-2004.
Oui, on raconte sa vie. L'idée, d'ailleurs, est venue. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est Flock qui a eu l'idée, après avoir vu un documentaire que j'avais fait, moi, avec un réalisateur, sur Agatha Christie pour la télévision, et qui m'a dit, mais pourquoi pas faire un documentaire en bande dessinée, et finalement, avec tous les gimmicks de les documentaires, avec les personnages qui témoignent, face caméra, enfin, etc. Enfin, bon. Et même le côté très fabriqué des documentaires, enfin, souvent qui reformatent complètement un personnage comme on le veut, quoi. Et, oui, parce que justement, la bande dessinée se prête à énormément de choses. Hein. Je pense qu'il y a eu une époque même où ce dessinateur que j'aimais énormément, qui dessinait pour Pilote, qui s'appelait Fred, qui avait fait... Philémon, qui avait fait un album unique, qui s'appelait Le Petit Cirque, qui était absolument extraordinaire. Là, on était dans un univers de fantastique à la Hoffman, mais c'était... je crois, alors ça, c'est peut-être, ce sont peut-être des propos que je vais regretter, évidemment. Je crois qu'on a vécu une époque quand même un peu plus féconde dans la bande dessinée. Maintenant, c'est l'épanouissement complet, mais avec des gens qui étaient vraiment très inspirés. Même si aujourd'hui, un auteur, enfin, un jeune dessinateur, il ne veut pas s'embarrasser d'un ou d'une scénariste, parce qu'effectivement, cette pratique du duo n'est pas forcément la meilleure. Hein. Je le conçois très bien. Peut innover vraiment, peut œuvrer dans une manière totalement originale, c'est possible. Il aura peut-être du mal à se faire connaître, parce que la production est absolument énorme. Mais j'ai quand même l'impression qu'à une époque, les années 70 notamment, enfin, il y a eu... Au moment où le médium évoluait vraiment avec des possibilités plus grandes, avec des supports qui étaient quand même autre chose que le Tintin, Spirou, qui était quand même si ça permettait à des très grands dessinateurs
de travailler,
faire tout ce qu'ils avaient envie de faire, mais pour des débutants, c'était beaucoup plus difficile.
Je m'inscrirai un tout petit peu en faux, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a des albums absolument incroyables. Jimmy Corrigan, qui là où on est stupéfait par ce nouveau vocabulaire. Ici, c'est la même pièce, la même maison depuis les Diplodocus jusqu'aux années 90, qui revient obsessionnellement à travers des centaines de pages. Donc, il y a quand même des expériences formelles, mais qui sont en même temps de vrais scénarios, et qui ne sont pas juste une espèce de coup de cravate conceptuel, qui me paraissent aller encore plus loin que les années 70, même si vous les avez vécues et vous avez vu effectivement l'explosion de la liberté de créer, qui était tout à fait neuve à cette époque-là, avec d'ailleurs là aussi quelques déchets. Voilà, tout n'était pas admirable dans Charlie Hebdo, tout n'était pas bon à prendre dans le nouveau Gottlieb, etc.
Oui, non, mais ça a été une grande époque. Mais je pense que on a découvert que c'était vraiment alors c'était peut-être pas une bonne idée de dire que c'était un art absolument fabuleux, mais qui reflétait plus la mentalité des gens que les choses, que le monde réel. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je pense que artistiquement, enfin, il y avait des innovations plus grandes, ou carrément sur le plan de l'exploration de la société. Je pense que j'ai retrouvé justement un article que j'avais fait sur Bretéché, qui est quand même quelqu'un qui est pratiquement la première femme en France à faire de la bande dessinée, s'impliquait complètement, faisait de la critique sociale, et du coup a connu un succès énorme. Dans ce pays cartésien qui n'était pas forcément très féministe, qui pouvait avoir du mal à accueillir quelqu'un comme elle. Donc, il y a eu vraiment tout. On a eu droit à tout. Hein, c'est ça qui est très bien. Je sais pas, enfin, tous les grands dessinateurs. Enfin, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Drouillet, Philippe Drouillet, qui était quand même, avec qui j'ai eu des discussions interminables sur Gustave Moreau et le symbolisme, qui est un immense dessinateur. Un peu brouillon, mais absolument fabuleux, qui a réussi quand même à faire des choses qui auraient peut-être du mal même aujourd'hui à exister. Enfin, donc, voilà, enfin bon, puis toute la grande époque de pilote, ça a été quand même quelque chose. Et puis après, ça s'est un peu dilué et on vit peut-être aussi maintenant avec les disciples de grands dessinateurs qui ont œuvré, eux, dans les années 70-80. Enfin,
mais c'est vrai qu'on a du mal à voir qui sont les continuateurs de Druyer, du dessinateur de Arne, enfin, toute la bande de Dionnet, voilà, Bilal, chacun a créé un univers incroyable. Là, on a du mal à voir leurs épigones. Dans la manière dont vous faites valoir tel ou tel auteur peu connu, à travers une biographie, à travers les hommages que vous les rendez, à travers le système de référence, il y a aussi tout le pan des traductions que vous avez apportées, avec notamment Fu Manchu, Robert Louis Stevenson, avec toujours l'idée d'apporter au public, soit dans la littérature d'horreur, vous avez traduit les lettres d'Arkham, donc la correspondance de Lovecraft, donc sinon de Lovecraft lui-même, mais l'idée d'aller vers le deuxième rayon, ce qu'on a pu appeler la littérature bis, avec toujours cette volonté de montrer qu'en fait, il y a parfois une méconnaissance ou une mésestime d'œuvres qui sont en elles-mêmes tout à fait comparables à ce qui est au contraire mis en avant par les libraires.
Oui, alors ça c'est les passions d'adolescents qui découvrent, comme je l'ai fait moi, des auteurs un peu plus un peu délaissés, mais qui avaient eu leur heure de gloire en France hein, aussi. Hein. Je pense qu'on a publié presque tous les romans de Sax Rohmer, l'auteur de Fu Manchu, qui est quand même un auteur complètement kitsch, hein, qui a donné plus au cinéma des adaptations absolument extraordinaires. Bon, et mêler des œuvres considérées comme mineures, certainement, à des chefs-d'œuvre comme les nouvelles de Stevenson, par exemple. Mais c'est une envie de faire passer les choses, quoi, de faire connaître les auteurs ou reconnaître. Mais c'est une espèce de boulimie, un peu aussi. Hein, la peur qu'on oublie les gens. Mais là, c'est pas très original. Et avant moi, il y a eu des très très bons passeurs de toute cette littérature d'aventure. Je pense à Francis Lacassin qui a passé sa vie à faire publier, oubliant d'ailleurs lui-même d'écrire peut-être des biographies d'auteurs qu'il aimait, ce qui est dommage. Il a fait connaître Jack London à plusieurs générations de lecteurs sans même publier une biographie alors qu'il avait tout en main pour faire. Moi, ça m'a toujours un peu désolé.
On avait juste ses excellentes préfaces, effectivement.
Oui, peut-être parce que justement, là, il était encore, lui, dans la France, un peu hostile, un peu assez peu propice. Est-ce que j'aurais pu, moi, publier une biographie de Chesterton dans les années 60 Je ne sais pas. Enfin, n'étant pas un universitaire de haut vol, j'en sais rien.
C'était l'époque où on continue à publier des inédits de Chesterton, ben voilà, qui a quand même effectivement connu un petit purgatoire. Dans les confessions d'un amateur de bande dessinée belge, donc le livre dont je parlais tout à l'heure, que vous avez publié aux éditions des Impressions Nouvelles, vous racontez Hergé, vous racontez Jacobs, et vous racontez aussi la manière dont vous vous rendez compte que vous vieillissez peu à peu et que le monde de la bande dessinée change. Qu'est-ce qui vous frappe particulièrement? On en a déjà un peu parlé dans cet entretien. Quel est le statut aujourd'hui de cette bande dessinée franco-belge, de cet âge d'or des années 40-50 où les journaux prennent leur envol, où les premiers albums paraissent, où il y a quasiment un système industriel qui se met en place avec encore QRN sur Bretzelbourg qui surgit et qui continue à être au firmament de la bande dessinée?
Mais chaque moment où je me retrouve à Bruxelles, dans cette ville que j'aime beaucoup depuis, je sais pas, 50 ans presque, où j'ai connu et croisé des gens, ces grands auteurs de mes grands rhétoriqueurs, je me désole de voir que la bande dessinée, un peu comme la ville elle-même, comme la ville de Bruxelles, n'est plus dans Bruxelles, quoi. C'est-à-dire que finalement, La bande dessinée belge a été le reflet du pays qui l'a inventé, hein, vraiment, à tout point de vue. Et que finalement, il y a quelque chose de magique qui a un peu disparu, enfin, qui ne reste que dans les albums de la collection du Lombard, qui était vraiment l'espèce de collection qui est devenue une collection mythique pour les amateurs de la bande dessinée belge, et où finalement se reflétait, oui, un esprit, une espèce de bonhomie belge, une envie d'amuser, d'instruire en même temps, enfin, toutes ces choses qui ont disparu complètement, enfin, où c'était un peu l'écume de toute une époque aussi, hein, où la littérature enfantine, bon, était quand même surveillée de près par des censeurs qui ont par exemple, ça c'est pour la France malheureusement, ont empêché un album de Jacob de paraître ici. Enfin,
le piège diabolique.
Le piège diabolique qui a été censuré. Bon.
Ce qui d'ailleurs a complètement désespéré Jacob, si je ne m'abuse.
Oui,
vous en avez parlé avec lui ?
Le pauvre, oui, j'ai dû en parler avec lui, mais ça faisait déjà un moment qu'il avait du mal à vendre ses albums. Et parce que la moitié du tirage réalisé en Belgique était destiné à la France, et effectivement, oui, il ne comprenait pas du tout pourquoi on le censurait. Mais quand on lit l'album en question, on se rend compte que oui, il y a une espèce de mesquinerie absolument effroyable qui était à l'œuvre à ce moment-là, chez des gens, des éducateurs qui étaient censés un peu réguler la lecture pour la jeunesse française. Voilà, enfin bon, mais du coup, effectivement, toute cette production qui est devenue historique, en fait, a marqué une époque, a été marquée par une époque aussi. Moi, j'ai une nostalgie énorme de ce moment-là, parce que même si j'ai commencé à en lire, alors que j'étais quand même encore vraiment très jeune, j'ai l'impression d'avoir été imprégné par ça et d'avoir vu petit à petit disparaître cette espèce de... Oui, c'est une espèce de magie, en fait, de naïveté, de côté, je sais pas, très enfantin, mais qu'on pouvait ressentir encore dans les années 70, puisque moi, j'ai pas découvert Bruxelles et la Belgique avant le début des années 70, qu'on ressentait quand on fréquentait ces personnages. Hergé était quelqu'un qui avait eu des problèmes un peu pendant la guerre, bon, il s'était remis de tout ça, qui était devenu un classique de son vivant, une légende vivante. D'autres auteurs qui étaient beaucoup plus modestes, qui étaient beaucoup moins connus même, qui vivaient de manière beaucoup plus sobre, mais qui tous avaient quand même une espèce de mélancolie chez eux déjà dans les années 70, puisqu'ils sentaient qu'on allait vers la fin, quelque chose. Hergé a été marqué par l'arrivée d'Astérix, par exemple. Il a compris qu'il allait être détrôné, finalement, que Tintin allait perdre un peu de son autorité sur le lectorat.
Franco-belge.
Franco-belge, oui, puisque ça avait pris une importance énorme. Voilà, donc c'était la suite des choses. Et ça...
C'est vrai que c'est l'époque où plusieurs dessinateurs se tombent en dépression, et via Hergé lui-même et Franquin. Voilà, donc où brusquement, il y a une passation qui se fait mal, il y a une nouvelle génération qui est rebelle. C'est le moment où Goscinny se fait contester par les légendes pilotes en 68, qui exige son départ car c'est un valet du capital. Et vous-même, vous commencez à écrire dans les cahiers de la bande dessinée à ce moment-là ?
Ben oui, les cahiers sont créés en 71, et à ce moment-là, il y a une espèce d'émulation quand même chez des fans, enfin dans un club très réduit à ce moment-là encore d'amateurs. Je sais, quand je suis arrivé à Paris, moi je suis arrivé en 1969 à Paris, en sortant de ma province, et j'ai découvert qu'il y avait des réunions mensuelles d'amateurs de bande dessinée organisées par un club qui publiait une revue qui s'appelait Phoenix, qui était un peu la revue qui a un peu voulu imiter... qu'on voulait imiter les cahiers de la bande dessinée, mais enfin qui était peut-être moins moins privilégié, enfin je sais pas comment dire. Et je me suis rendu compte, oui, qu'il y avait un espèce de fan club. Il y avait des fous de bande dessinée qui essayaient de faire reconnaître cette chose qui était finalement partout, qui existait souvent de manière pas très populaire, quoi, pas du tout, pas considérée vraiment de manière très sérieuse, à part peut-être par quelques intellectuels parisiens ou des gens un peu plus évolués. Je pense au réalisateur Alain Resnais, qui avait créé lui-même un club d'amateurs de bande dessinée, mais qui n'a pas existé longtemps.
Mais qui a fait dessiner Bilal dans ses films.
Oui, il y avait... Non, mais on n'avait pas en France ce que les Italiens ont eu grâce à des gens comme Umberto Eco, qui a été un analyste, enfin, en tant que sémioticien, il a analysé la bande dessinée, il a fait connaître, enfin, grâce à des revues publiées par des amis à lui, les bandes dessinées américaines qu'on ne connaissait pas. Enfin, moi, j'ai découvert quand même beaucoup de choses dans les années 70, toutes ces séries américaines classiques que j'ignorais tout, n'ayant pas grandi dans ce milieu. On découvrait quelque chose qui... il y avait un côté un peu archéologie, hein, même aussi, par rapport à ce qui venait de l'autre côté de l'Atlantique. Et la bande dessinée américaine a quand même eu une influence énorme sur le développement de la bande dessinée en Europe de l'Ouest. Ce qui fait que la bande dessinée belge, après avoir été une espèce de créer un mouvement, Hergé m'a dit un jour, c'est incroyable, finalement, la bande dessinée, ça a commencé plutôt en Belgique qu'en France. Il m'a dit ça textuellement. Ça avait un côté un peu bébête, quoi, mais finalement, il n'avait pas tort, puisque c'était lui, finalement, qui avait un peu lancé le mouvement, puis après créé une espèce d'école. Alors même qu'en France, on en restait à des choses beaucoup moins intéressantes. Enfin, une production locale qui n'était pas fantastique, à part Zig et Puce d'Alain Saint-Augan, qui a disparu complètement, d'ailleurs. Mais finalement, c'est... La Belgique, qui finalement était une sorte de relais entre l'Amérique et la France, puisque les Belges ont toujours été très américanophiles, un peu par nécessité, parce que quand on n'a pas d'identité, on prend ce qu'on trouve ailleurs.
Je vous laisse la responsabilité de ces propos. Merci mille fois François Rivière de cette heure passée avec vous. Je rappelle la confession d'un amateur de bande dessinée belge, mais surtout voilà le rendez-vous de Seven Oaks, Olivia Sturges, la série Blitz, le privé d'Hollywood, voilà, et tous ces livres que vous avez préfacés, et dont l'un des derniers est Ma vie aventureuse de Sir Arthur Conan Doyle, avec une préface qui ne donne qu'une envie, c'est de lire votre biographie, parce que dans votre biographie on apprend tout ce que Sir Arthur Conan Doyle tait dans sa propre autobiographie. Quand même, il passe sous silence les épisodes les plus marrants, qui sont notamment la manière dont il croyait que les fées avaient été photographiées, ce genre de choses. Voilà. Merci d'avoir défendu la bande dessinée et d'avoir affirmé que c'était un art, en tout cas une manière très originale de lier la littérature et le graphisme.
Merci à vous.